Est-ce que Sabrina, tu pourrais lire Luc 18, 18, s'il te plaît? Merci. Alors, qu'est-ce qu'a fait Jésus à ce moment-là? Je vous remets le contexte. Il y a un homme riche qui vient voir Jésus, qui accourt vers lui, et qui s'écrie et qui s'exclame, « Bon maître, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire pour aller au paradis? Comment est-ce que par mes œuvres, je peux faire en sorte d'être accepté ?» Et Jésus, est-ce que tu peux lire juste la suite? Merci. On voit que Jésus, il corrige le concept de bon. Pourquoi? Parce qu'il est en train de lui dire, attends mec, t'es en train de m'appeler bon maître, et moi je te donne la vérité absolue, c'est qu'il n'y a de bon que Dieu seul. Il n'existe de bon que Dieu. Et il est en train de rappeler que tout être humain est pécheur. Il est en train de lui rappeler que lui aussi, qu'il fait partie de cette globalité qu'on peut voir dans Romains, quand il nous est dit que on est tous pécheurs et on est tous privés de la gloire de Dieu. Il est en train de lui dire, attention, n'appelle pas bon n'importe qui, car ton concept de bon n'est pas le concept de bon de Dieu. Et ensuite, il le confronte. Est-ce que tu peux poursuivre, Sabrina, s'il te plaît? Amen. Merci. On voit qu'il le confronte à quoi? À la loi. On voit qu'il lui parle et qu'il lui dit, il lui rappelle. Il lui rappelle des commandements qui sont à la base de leur croyance, qui sont à la base de leur, normalement, style de vie, de leur manière de vivre. Il leur rappelle quelque chose de capital et de vital à la première question, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Il est en train de lui dire, fais toutes ces choses. Lorsque Dieu a donné la loi, il lui a dit, fais toutes ces choses et tu vivras. Seulement, il y a l'élément fatidique qui tombe, c'est qu'on n'arrive pas à faire toutes ces choses. Donc, on ne peut pas vivre. Ensuite, on peut voir que, on va avoir quatre points. C'est ce que Jésus a fait en fait. Ce que Jésus a fait est applicable dans nos vies. Souvent, quand on lit la parole de Dieu, moi ça m'est arrivé plein de fois, c'est ce qu'on partageait tout à l'heure avec pas mal de gens, on se disait mais mince quoi, j'ouvre ma Bible et je tombe sur des passages que je comprends pas. Je demande à Dieu de me parler et j'ouvre puis je tombe sur la construction du temple. Tu resumes vite ta Bible puis tu fais, tu reviendrai plus tard quoi. Tu ouvres ta Bible, tu tombes sur Lévitique puis Seigneur, je comprends pas ce que tu es en train de me dire. L'application pratique qu'on peut voir, c'est la vie de Christ. Lorsqu'on ouvre la parole de Dieu, on n'ouvre pas qu'un bouquin, on n'ouvre pas qu'une histoire, on n'ouvre pas des fables. On ouvre un livre à travers lequel Dieu va nous parler. Dieu va s'exprimer à nous. Et lorsqu'on peut voir dans la vie de Jésus la démarche qu'il a eue, il a tout de suite corrigé le concept de bon. Il lui a dit, fais attention, il n'y a de bon que Dieu seul. Ensuite, il le confronte à la loi. On va avoir 4 points. BDJD. Est-ce que tu es une bonne personne? Est-ce que tu es une bonne personne? Et cette question, je la pose à vous tous ce soir. Est-ce que vous pensez que vous êtes une bonne personne?
Oui.
Je vous le jure, c'est bien. Non, mais... Et c'est une question que vous pouvez vous permettre de poser aux gens dehors. On aborde souvent les gens avec est-ce que vous pensez que Dieu existe? Et si la souffrance, si Dieu existe, pourquoi le mal? Pourquoi le mort? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose après la mort? Ou qu'est-ce que vous pensez de Jésus-Christ? Bonjour, excusez-moi, on fait un petit sondage dans le quartier, on est de l'église de Saint-Maur, 65 quai de la Pie, et on aime poser cette question aux passants parce que la réponse nous intéresse. Est-ce que vous êtes une bonne personne, madame ou monsieur? Ok. Bah, laissez-moi vous poser une question. Alors, vous n'avez pas posé la question comme ça. Parce que, arriver frontalement et dire, ok, les 10 commandements de Moïse, vous voyez c'est quoi? Vous allez garder? Vous avez fait? Non. L'approche qui est la plus, je dirais, simple, la plus pratique, est-ce que vous avez déjà menti? Ok. T'as jamais menti. Est-ce que vous avez déjà volé, monsieur? Même pas un bonbon? Une pièce? De la musique sur internet? Ok, super. Et, ouais, comment je peux croire que c'est vrai? Vous êtes bloqué, je crois. D'accord. Est-ce que c'est une bonne personne? Oui. Et franchement, pour l'avoir vécu à Montreuil, moi au départ, je me suis dit, je sais pas. Mais quand vraiment vous le vivez, les gens vous répondent que oui. Ils pensent sincèrement être foncièrement bons. Et ça, je vous assure que des fois, je me dis, mais waouh, quoi. Le mec, il est tellement dans l'erreur et il s'en rend pas compte. Parce qu'il y en a qui vont vous dire, ouais, je suis bon, mais on sent une touche de scepticisme dans sa voix, on sent le doute. Mais il y en a qui vont vous dire, je suis bon, je suis parfait. Et vous êtes en train de dire, oui, mais il y a de bon que Dieu seul, il y a que Dieu qui est bon, vous êtes d'accord avec cette vérité-là quand même? Non, je suis bon, j'ai jamais péché. Est-ce que vous avez déjà menti? Oui. Est-ce que vous avez déjà volé? Oui, non. Est-ce que vous avez déjà convoité? Si vous vous rappelez ce que je dis, j'invente pas la poudre. On l'a vu hier soir dans la vidéo. Et on voit que ça marche. On voit que c'est quelque chose que ça fait mouche en fait. Pourquoi? Parce que souvent quand on évangélise, quand on va parler aux gens, quand on va avoir une démarche, on va leur poser des questions, on va avoir des questions qui sont évasives. On va leur permettre d'être évasives dans leurs réponses. On va pas les confronter. Les confronter cash. Est-ce que tu es une bonne personne? Il n'y a qu'un oui, il n'y a qu'un non que tu peux répondre. Tu peux dire, bah, ça dépend de ta définition. Enfin, est-ce que tu as déjà menti? Ça dépend ce que tu définis comme mensonge. Enfin, il y a un mensonge vrai. Là, le mensonge, c'est l'absence de vérité. S'il n'y a pas de vérité, il y a du mensonge. Est-ce que vous avez déjà volé? Ben non, j'ai emprunté, mais je n'ai jamais rendu. C'est la même chose. Précisez bien les choses, confrontez ces personnes. Et face à la question, est-ce que vous avez déjà convoité? Je vous assure que moi, cette question, elle me gênait un petit peu parce que je me disais, mince, je rentre dans l'intimité de la personne, une intimité au niveau de la pensée, au niveau parfois même d'une pensée qui est sexuelle. Je me disais, le mec, il va pas vouloir me répondre. Mais il y a des gars, exactement comme dans ce qu'on a vu hier, on a fait une sortie d'évangélisation le 21 juin dernier, et il y a un jeune, il me regarde, il me fait, je suis en train de le faire en ce moment. J'étais là, showtime. Qu'est-ce que je dis? Enfin, je veux dire, les gens affichent leur péché parce que c'est plus devenu un péché pour eux, c'est plus devenu quelque chose de tabou, quelque chose de mal. Vous allez en école, même franchement au collège, je marchais dans la rue un jour, puis je vois des petits qui étaient au bord de la rue, qui avaient 7-8 ans. Et je m'arrête pour attendre mon bus et ouais et ils s'arrêtent et ils me disent t'as déjà fait l'amour? Le gars il est petit, enfin moi à son âge je joue au bille, quoi, et c'était déjà quelque chose de ouf, enfin je veux dire, enfin je me rappelle, j'étais pas aussi perverti. Et on voit à quel point le monde postmoderne qu'on a voulu voir aujourd'hui mais est totalement mais déréglé par le péché, où le mal devient quelque chose de bien et le bien devient quelque chose de mal. Donc n'hésitez pas à les confronter, parce que s'ils ne sont pas confrontés, ils ne se rendront jamais compte de leur erreur et de leur faute. Devant l'objection, devant ces quatre questions finalement, Jésus, il n'a pas fait tous les 10 commandements, il en a posé des questions centrales. Ok, on a vu que vous êtes un menteur, on a vu que vous êtes un voleur, on a vu que vous êtes un adultère. Et est-ce que vous considérez toujours être quelqu'un de bon? Oui ou non?
Bah ouais.
Très bien, si je vous dis qu'il n'y a de bon que Dieu seul et que la justice de Dieu n'est pas la justice de l'homme, et que devant sa justice, vous êtes condamnable parce que une seule faute vous donne un ticket gratuit pour l'enfer, est-ce que vous considérez être quelqu'un de bon?
Non.
Ils se rendent compte de leur état. Très bien, ne vous arrêtez jamais là. Ok, vous n'êtes pas quelqu'un de bien? À votre avis, vous irez où du coup? En enfer ou au paradis? Est-ce que cette pensée vous réjouit? Est-ce que vous êtes en paix avec ça? Et quel est votre destin? C'est trop vite. Donc, 4 points qui permettent de résumer l'approche. B, bonne personne. D, les 10 commandements, on les confronte à la loi. J, quel est votre jugement? Qu'est-ce qui vous attend? Et D, quel destin avez-vous, paradis ou enfer? C'est clair. C'est net. Et je trouve que c'est ça qui est de merveilleux peut-être avec l'utilisation de la loi, c'est que ça va droit aux mouches. droit au but, ça fait mouche. Pardon. Ça va droit au but. C'est clair, c'est net, c'est propre. On peut pas esquiver. Et vous rentrez dans, en posant ce genre de questions, vous rentrez dans l'intimité de la personne. Vous êtes en train de lui demander quelque chose qu'il fait quotidiennement et vous êtes en train de lui prouver par A plus B, par ses propres réponses, qu'il est mauvais et foncièrement mauvais. Et devant ça, vous êtes en train de lui dire, faites attention, parce que ce qui vous pend au nez, c'est pas juste une punition lambda. C'est l'éternité loin de Dieu, c'est l'éternité en enfer. Est-ce que vous êtes une bonne personne? Ok, bon et bonne. On voit que beaucoup proclament leur bonté dans Proverbe 20, verset 6. Et je vous assure que c'est le cas. Dans le monde de dehors, en dehors de ces quatre murs, beaucoup proclameront leur bonté. Une fois à Montreuil, on était parti devant la cathédrale et j'étais en binôme avec un jeune et on avait parlé à un couple de vieux, de personnes âgées, pardon, qui c'était des cathos. Et lorsqu'on leur demande, est-ce que vous pensez que vous êtes une bonne personne? Ah ben oui, bien sûr. Ah, je suis une bonne personne, j'ai bien agi dans ma vie. D'accord, est-ce que ça vous est déjà arrivé de mentir, madame? Oui, et souvent on va vous répondre ça. Il y a des bons mensonges, comme il y a des petits mensonges et des gros mensonges. Il y a des mensonges qui sont faits pour aider les autres et d'autres qui sont foncièrement mauvais. Rappelez-leur que un mensonge est un mensonge. Que l'absence de vérité, quelle qu'en soit la raison, est un mensonge. Et devant Dieu, c'est la peine encourue, c'est l'enfer. Ok, est-ce que vous avez déjà volé? Oh, ça m'est déjà arrivé. Petit truc. Vous avez déjà été adultère? Et là, il y avait son mari. Mais allez-y. Bon non, quand même pas. Très bien. Mais est-ce que vous avez déjà convoité dans votre cœur? Désiré quelqu'un? Juste dans vos pensées? Oui. Vous savez que Jésus a dit qu'à partir du moment où on désire quelqu'un dans son cœur, dans ses pensées, le péché est déjà commis. On est déjà un adultère. Ça rappelle juste le concept de bon. Jésus, c'est ce qu'il a fait. Ta justice, c'est ça. La mienne, c'est ça. On vous a dit que il fallait pas être un adultère? Moi, je vous dis que si vous convoitez quelqu'un dans votre cœur, vous êtes déjà adultère. La justice de Dieu, elle est au-delà de la nôtre. C'est pas la nôtre. On n'est pas phasé sur lui. La justice de Dieu n'est pas la justice des hommes. Le bon de Dieu n'est pas le bon de l'homme. À côté de votre voisin qui bat sa femme ou de votre voisin qui tue, Vous êtes une bonne personne selon notre justice à nous, être humain. Mais à côté de la justice de Dieu, rien ne peut vous épargner, rien ne peut vous sauver. Et ça, c'est quelque chose de clair avec lequel Dieu ne transgresse pas. Dieu ne peut pas se contredire. Et Dieu ne vous dira jamais, bon ok, t'as menti pour de bonnes raisons et t'as volé parce qu'ensuite l'argent, tu l'as donné aux pauvres. Donc c'est ok. Ou de l'argent, tu l'as donné à mon église. Allô? Non. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est juste et saint. Corriger le concept de bon, c'est important. Pourquoi? Parce que si vous dites juste, est-ce que vous êtes une bonne personne? Ben, lui va comprendre vite avec sa conception du bon. Ne faites pas les choses à moitié. Rappelez quel est le bon de Dieu. Rappelez quelle est la justice de Dieu. Rappelez la loi. Parce que la loi est la moralité de Dieu. Et elle existera éternellement. La loi prouve juste la sainteté de Dieu. Et c'est la manière de penser de Dieu. Puisque Dieu est juste et saint. Rappelez le bon de Dieu, sinon votre « est-ce que vous êtes une bonne personne ?»« finalement, si vous n'avez jamais fait toutes ces choses, c'est bon. » Non, parce que le bon de Dieu n'est pas le bon des hommes. On a besoin d'utiliser la loi pour montrer la nécessité, le besoin, la vitalité d'un sauveur. Parce que si je viens vous voir et vous dire « Bonjour, Jésus-Christ veut vous sauver et il vous aime. » J'oublie des points centraux du message. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas enlever? On a besoin de parler du péché. Et le péché, qu'est-ce qui mène à la connaissance du péché? C'est la loi. Tous les versets qu'on a vus hier, pour moi, sont extrêmement riches. Je n'aurais jamais su que j'étais adultère si la loi ne m'aurait pas dit que c'était un adultère. Je n'aurais jamais pris la connaissance des choses. Ça n'aurait jamais fait tilt dans mon esprit. Et on voit même que juste la loi inscrite dans le cœur permet de voir à quel point l'humanité a une connaissance partielle, déstructurée, démolie, mais a une connaissance de la loi de Dieu. Et l'importance de rappeler la loi montre et soulève, ça fait un effet levier. On appuie sur la loi, le sauveur sort. La solution, elle sort. Parce que quand on appuie sur l'élément qui est mauvais, qui est négatif, qui est noir, la solution, on a tout de suite envie de trouver la solution. On se questionne, on se dit, mince, en fait, je suis mauvais, quoi. Je pensais que j'étais bon. Mais qu'est-ce que je peux faire pour sortir de là, de ce trou? Et c'est exactement ce qu'on disait l'autre jour, c'est, on prend conscience qu'il y a une corde dans le trou et on la saisit pour sortir. Et ce serait illogique d'arriver à un moment où on saisit la corde, sortir un couteau et de la couper pour redescendre en bas du trou, quoi. Parce qu'on a trouvé notre salut, parce qu'on l'a attrapé, parce qu'il est devenu vivant dans nos vies. Et ce levier-là, on appuie en appuyant sur la loi, en faisant ressortir la nécessité, la noirceur de notre cœur, et en montrant qu'il y a une bonne nouvelle, il y a une solution. Parce qu'une fois qu'on avait fait cette démarche-là, la dame me dit, ouais, mais pour vous, tout est blanc et tout est noir. Ben oui. Ben dans ce cas-là, le paradis sera vide. Ben non. Pourquoi? Vous venez de me dire que tout homme est pécheur. Oui. Ben alors, je comprends pas. Ben alors, laissez-moi vous expliquer, madame, la bonne nouvelle qui arrive. C'est que cette loi, elle a été accomplie en un seul homme. Et qu'il n'y a qu'une seule personne qui a réussi à la suivre, c'est Jésus-Christ. Et qu'il est venu pour l'accomplir et pour vous montrer son amour et pour vous sauver, vivre la vie que vous auriez dû vivre, mais que vous n'arrivez pas, visiblement, parce que votre chair vous pousse à faire ces choses-là, et mourir la mort que par contre vous devriez vivre et que vous méritez. Prenez cet exemple. Il y a deux personnes qui sont en train de jouer dans une rue, et il y a une voie où il y a un tramway qui doit passer. Elles sont en train de jouer paisiblement au ballon ou à tout ce que vous voulez, à la poupée. Elles jouent. Et vous êtes leur voisin, vous passez tous les jours devant. Et vous dites, coucou, ça va Abraham? Ça va Marianne? J'ai bugué. comment tu vas ? Et vous, vous voyez le train arriver au loin, et vous dites, coucou, ça va ? Non ? Vous voyez le train, vous lui dites, mais... Vous lui dites pas, bon bah, salut, quoi. Bonne journée. Vous dites, mais... Comme disait Callaghan, en fait, c'est absurde de raisonner qu'est-ce qu'on fait. On le prend, on le jette en dehors des rails. Mais attention, on l'avertit. Et il y a un exemple qui m'a énormément parlé. Nous avons cette connaissance qu'un jour, beaucoup mourront en enfer. Nous avons cette connaissance qu'il y a une solution à cette condamnation et à cette fatalité. Ne pas en parler, ne pas proclamer, ou en parler partiellement, ou déguiser pour que ce soit beau et que les gens viennent et remplissent nos églises et que ce soit bombé et que les gens disent « Waouh, ton église elle est remplie !» Donc avec de fausses motivations, bah ça fait en sorte de ne pas faire, de ne pas avoir cette action d'évangéliser. C'est comme si vous aviez dans votre poche une seringue avec le vaccin contre la pire maladie au monde et que vous ne donniez pas. C'est comme si chez vous, à la fin ce soir, quand vous rentrerez et que vous allez vous installer dans votre lit, sous votre lit il y a une boîte, et dans cette boîte il y a une machine, cette machine elle vous dit quand est-ce que la prochaine catastrophe naturelle va avoir lieu, où, quand et comment, et vous ne le dites à personne. Pour moi, vous perdez votre humanité. Vous perdez ce caractère compatissant, ce caractère empathique, ce caractère solidaire, en ne proclamant pas, en ne criant pas cette nouvelle qui change les vies et qui transforme et qui sauve, plus que tout, qui sauve. Et si on ne fait rien, le plan de Dieu se fera quand même, avec ou sans nous. Avec ou sans nos églises. Ça, cette phrase, franchement, je sais plus qui l'a dit, mais ça m'a tué, quoi. Est-ce que vous êtes une bonne personne? Même si c'est une personne âgée. Et alors? Justement, vous avez plein de vécu, donc je pense que vous avez plein de choses à nous dire. Quel est votre... Est-ce que vous avez déjà menti? Volé? Été adultère? Confrontez-les aux 10 commandements, confrontez-les à la loi. Cette loi qui condamne. C'est bien d'être condamné. Parce qu'on cherche tout de suite un sauveur, parce qu'on cherche tout de suite une solution, parce qu'on sait tout de suite à s'échapper, à pouvoir trouver un moyen de salut. Et je vous assure, pendant cet été, je suis parti dans une maison de retraite où il y avait des personnes qui étaient très âgées. Évidemment, maison de retraite. Mais je veux dire que j'ai été marqué parce que j'ai pas tout de suite compris que les personnes elles avaient Alzheimer. Parce que je lui parlais, vous venez d'où? Paris. Vous venez d'où? Paris. Vous venez d'où? Paris. Paris. Je me dis, mais il y a un problème. Je lui dis 10 fois que je suis à Paris. Je suis loin à la détente, ok, mais... J'ai compris, et quand j'ai compris, je me suis dit, mince, comment je vais faire pour lui annoncer l'évangile? Il va l'oublier. Je me suis dit, Seigneur, dans ta grâce, s'il te plaît, fais quelque chose. Et pour moi, lorsqu'on annonce l'évangile, lorsqu'on annonce la loi, lorsqu'on annonce clairement qu'on met en lumière, on soulève la pierre, on met en lumière la crasse qui est en dessous, les gens n'auront qu'une envie. Ou la taper, la recouvrir avec quelque chose d'autre pour faire genre, non, il n'y a rien. Ou dire, waouh, c'était si sale que ça. Je suis si mauvais. Et Dieu est si parfait. C'est si incompatible. Comment faire pour me rendre compatible avec Dieu? Si mon destin c'est l'enfer, comment faire pour être sauvé? Si le jugement qui m'attend, c'est l'enfer. Comment faire pour être racheté, pour m'en échapper? L'unique solution apparaît si lumineuse, si claire, si logique. Combien de mensonges avez-vous dit dans votre vie ? Avez-vous jamais volé quelque chose ? Avez-vous déjà commis un adultère ? Est-ce que vous avez déjà tué ? Qui a déjà tué quelqu'un ici dans la salle ? Amen. Non pas que j'aime les... Non. Mais les gens vous diront obligatoirement non. Mais rappelez-leur que Jésus a dit qu'à partir du moment où on a haï quelqu'un dans notre cœur, c'est comme si on l'avait déjà tué. Qui a déjà haï quelqu'un ? Si vous êtes curieux, c'est dans Matthieu 5. Vérifiez, cherchez. On a tous déjà tué. On doit tous demander pardon. Avez-vous jamais utilisé le nom de Dieu sans respect, en vain ? Avez-vous déjà blasphémé ? Si c'est le cas, c'est bien. Mais rappelez la nature sainte de Dieu. Rappelez à quel point on ne se moque pas de lui. Rappelez-lui sa justice. On va voir maintenant les gens. Quand vous arrivez à ce point-là, quand vous arrivez au moment où ils vous disent « Ok, je mérite l'enfer. Ok, il y a une solution. C'est Jésus-Christ. Ok, il est mort pour moi. » Il commence à comprendre. Mais qu'est-ce que je peux faire ? Que dois-je faire pour être sauvé ? On en revient à la question de l'homme riche. Que dois-je faire pour être sauvé ? Repentez-vous. Repentez-vous et faites confiance en Jésus-Christ. La repentance ne peut pas être écartée dans votre message. Parce que si vous êtes en train de dire, sinon, qu'ils peuvent accepter Christ, qu'ils peuvent peut-être se rendre compte de leurs erreurs, sans demander pardon. Vous touchez à la conscience, et avec cette démarche, vous pouvez réfuter une pensée qui est évolutionniste. Rappelez-vous la démarche qu'on a vue hier. Vraiment, moi, elle a pris tout son sens quand je l'ai appliquée. Cet été, j'étais sur les plages de Paris, de France. Oula. C'est parce que je vis trop à Paris. J'étais sur les plages de France, et à un moment donné, j'avais une discussion avec une dame, et je lui disais, est-ce que vous croyez en Dieu ? Non, athée. Très bien. Est-ce que vous pensez que vous êtes une bonne personne ? Oui. Vous êtes déjà menti ? Bah oui, comme tout le monde. Combien de fois ? Une fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois ? Ah, beaucoup plus. Ok, est-ce que vous êtes déjà arrivé de voler ? Bien sûr. Convoité ? Oui. Ok. Et devant ça, est-ce que vous pensez que vous allez au paradis ? Avec ce que vous venez de me dire, est-ce que vous pensez que vous méritez d'aller au paradis ? Non. Mais de toute façon, je crois pas au paradis. Moi, je crois en l'évolution. Je lui ai dit, attendez, vous êtes en train de me dire que vous croyez qu'à partir d'un Big Bang, que deux cailloux qui se touchent, qui se heurtent, qui rentrent en collision, ça donne naissance à tout ce qu'on voit aujourd'hui. Le ciel, la terre, les êtres humains, la complexité du corps, quand je me coupe, ça se guérit. On m'enlève le pouce, je peux même plus tenir une tasse. Vas-y. Oui. Vous pouvez leur dire, c'est quoi l'évolution pour vous ? Bah, c'est le fait qu'il y a une division unicellulaire qui se développe dès la création. Ok, mais ça vient d'où ? Bah, il y a eu un Big Bang. Travaillez-les au corps, hein, franchement, malaxez-les comme... travaillez la patte. Cherchez à voir, cherchez à les confronter, creuser avec eux. Non pas parce que vous êtes en train de les juger ou alors les coincer. Tout simplement parce que les gens ont besoin de sentir que vous êtes authentique quand vous leur parlez. Vous récitez pas un speech, vous récitez pas quelque chose d'appris par cœur. Vous avez une conversation vivante avec eux et vous êtes vraiment intéressé pour savoir ce qu'ils pensent. Pourquoi tu crois en l'évolution ? Parce qu'il y a le singe, d'où vient le singe ? Parce que d'où ça vient tout ça? Il y a un argument qui m'a choqué quand j'y ai pensé quand je parlais avec la personne. Elle me disait, moi je pense qu'à un moment donné, dans l'histoire, il y avait qu'une seule cellule et pouf, elle s'est divisée. Je lui ai dit, pardon? Alors, est-ce que dans les news à la télévision, un jour, il y a eu un journal, Flash Info, attention mesdames et messieurs, devant nous, quelque chose se crée à partir de rien et devient quelque chose d'autre? Donc ça se divise et boum, regardez, on n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité. Et surtout, l'origine encore, quand on remonte beaucoup plus loin, c'était une flash de galets, j'ai pris deux galets, je lui ai dit, madame, il n'y a pas de girafe. Et j'aurais beau le faire 10 000 fois, il n'y aura pas de girafe. Un raisonnement par l'absurde? Ok. Ça fait rire les gens? Oui. Ça leur montre aussi la bêtise de leurs croyances. Et qu'il faut avoir plus de foi pour croire en l'évolution que croire en un Dieu créateur, un Dieu tout-puissant, qui a juste le pouvoir de parler et les choses arrivent, de décréter et elles se produisent. Et qui a une force qui dépasse la nôtre et notre entendement. Pourquoi est-ce qu'on a besoin nécessairement de trouver une excuse à la non-existence de Dieu? Parce qu'on a peur de perdre le contrôle. On a peur de ne plus être au volant. Parce qu'on croit pertinemment que c'est nous le chef du bateau. Pour fuiter l'âge de la Terre, je passe un peu plus vite la diapo parce que, il y a d'autres points qui sont importants. On peut réfuter tout ce qui est, tous ces arguments. Oups, pardon, peut-être aller plus vite, trop vite. L'âge de la Terre, est-ce que l'âge de Noé a vraiment existé? Est-ce que la Bible a été falsifiée? Faites votre journaliste. Qui vous a dit ça? Où? Quand? Et comment? D'où vous tenez tout ça? Et j'aimerais juste insister sur ce point qui pour moi était juste flamboyant et révélateur. Vous êtes en train de me dire qu'à l'époque où aujourd'hui, certes, pour falsifier un document qui est public, on a Internet, ça se communique extrêmement vite. Seulement là, vous êtes en train de me dire qu'à l'époque où il y avait peut-être, je sais pas combien d'exemplaires de Bible sur la surface du globe, il y a un mec dans tel pays qui s'est mis d'accord pour falsifier pile poil un truc, puis un autre dans un autre pays qui s'est mis d'accord pour falsifier la même chose au même moment, et que la falsification soit cohérente entre tous les pays sans qu'il y ait une communication, parce qu'avant pour communiquer, fallait aller un délai de plusieurs jours, fallait des messagers. Transporte-toi dans le temps. À l'époque où il y avait Mahomet ou cette période historique où la communication n'était pas comme celle d'aujourd'hui, on n'avait pas de téléphone portable, on n'avait pas de mail, on n'avait pas de diffusion à grande échelle, à échelle mondiale et planétaire, où avant, pour communiquer et pour se mettre d'accord sur un point, moi je me dis avant, quand j'ai pas de batterie sur mon téléphone ou quand j'ai un bug, pour prendre rendez-vous avec un ami, je me dis c'est la galère. Je lui dis rendez-vous à 15h sous l'arbre, il doit être sous l'arbre. Parce que s'il est pas sous l'arbre, je le loupe. Mais si moi, dans mon coin, je décide de falsifier la Bible, de dire, allez, j'enlève, car Dieu a tant aimé le monde, on va dire, car Dieu a tant aimé le peuple de la France, et que, en fait, le gars à Babelwood, il va dire, allez, je vais faire la même chose. Non, il faut qu'il y ait un dialogue. Et on peut pas dire que, tout d'un coup, la Bible s'est falsifiée au même moment, boum. Quand et comment ça s'est fait? Plus logique encore, c'est que les versions ne changent pas à travers le temps. Il n'y a aucune variation dans la parole de Dieu, dans les manuscrits qu'on peut dater, qu'on peut vérifier, qu'on peut aller voir, qui sont consultables entre la nôtre et les parchemins. Une preuve temporelle, une preuve historique. Comment partager avec les musulmans? Comment partager avec un catholique? Comment partager avec un homosexuel? Comment partager avec un athée ou un intellectuel? Comment est-ce qu'on peut partager avec un chrétien, entre guillemets? Comment est-ce qu'on peut partager avec un mormon, un relativiste, un témoin de Jéhovah, une personne âgée ou un sataniste? De la même manière. Est-ce que vous pensez que vous êtes une bonne personne? En les confrontant à leurs péchés, en les confrontant à leurs actions qui sont foncièrement mauvaises, parce que tout homme musulman, sataniste, athée, intellectuel, ou tout ce que vous voulez, est pécheur et privé de la gloire de Dieu. Est pécheur. Tout homme est pécheur. Donc tout homme, quand on appuie sur le levier de la loi, il y a la condamnation qui se lève et il y a la solution au-dessus qui dit « Accepte Jésus-Christ ». C'est ta seule solution de salut. Ok, je vais survoler ce point parce que je vois que l'heure tourne. Souvent, on a affaire à des vraies et des fausses conversions. Qu'est-ce que j'entends par là? Dans Romains 7,4, il nous est dit que « De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. » J'ai volontairement souligné les mots qui vont nous intéresser ce soir. On a été mis à mort en ce qui concerne la loi. La loi nous condamne. D'accord? Mais en Jésus-Christ, lorsqu'on se convertit, lorsqu'on l'accepte dans nos vies, lorsqu'il nous change et nous transforme, on porte des fruits. On reconnaît un arbre à ses fruits. Exactement. On voit une action de repentance, on voit une action de gratitude envers Dieu. Merci Seigneur, tu m'as pardonné d'une chose qui était foncièrement mauvaise, à travers laquelle je n'aurais jamais pu me racheter. Car toutes les bonnes œuvres que je peux faire ne pourront jamais contrebalancer le poids du péché. Imaginez-vous devant un tribunal, le tribunal de Saint-Maur, le tribunal de Paris ou votre ville, et on vous dit « Anna Souleymane, t'es pécheresse, et voilà ce que t'as fait. T'as fait ci, ça, 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 ça. » Qu'est-ce que tu réponds? Et il y en a dans la rue quand on leur dit « Vous êtes est-ce que vous êtes une bonne personne ?»« Ouais, mais attendez. » Ok, j'ai menti, j'ai désobéi, j'ai volé, j'étais adultère. Mais quand même, j'ai fait des choses bien dans ma vie. Un salut par œuvre. Qu'on peut voir chez les musulmans, qu'on peut voir chez les les bouddhistes, qu'on peut voir chez les cathos. Merci, cherchez le mot. On peut voir chez beaucoup de gens qui vont se dire, c'est mes œuvres qui me sauvent. Ok, ben, imaginez-vous dans ce tribunal, on vous condamne et on vous dit, vous avez menti, vous avez désobéi, vous avez fait toutes ces choses-là, vous avez tué. Qu'est-ce que vous avez à dire? Ouais, mais attendez, j'ai donné de l'argent à la Croix-Rouge et j'ai aidé les mamies à traverser. Puis quand j'avais un peu de temps libre, j'allais pour mettre de la peinture sur des graffitis. Le juge, il va vous regarder, mais vous êtes sérieux là? Vous pensez vraiment que ce que vous avez fait là, ça rachète le poids de votre dossier? Un juge qui est bon, tout comme Dieu, même si vous avez fait des bonnes choses, il est juste. Et donc forcément, lorsqu'on obtient le pardon de Dieu, lorsque la loi qui nous condamne nous pousse à accepter Christ, nous pousse à la repentance, nous pousse à avoir des fruits, alors il y a cette action de gratitude qui arrive parce qu'on se dit « Seigneur, merci !» Marie, la prostituée, quand elle a été pardonnée par Jésus-Christ, va et ne pêche plus, va en paix. Mais laisse tomber, quoi. Il y a eu un déclic. Mince, le péché que tout le monde était prêt à me lapider, le péché qui est le plus condamnable par mes pères, mais pardonné gratuitement, sans effort de ma part. Ça me pousse à quoi? À être reconnaissant. Les fruits qui montrent une vraie repentance, une vraie conversion, pardon. Les bonnes œuvres. Je suis pas en train de dire que les œuvres nous sauvent, mais les œuvres sont la manifestation visuelle, physique de notre foi. Je reprends cet exemple d'être amoureux. Clément, il est amoureux de Tatiana. Ben, si Tatiana, elle l'appelle, elle lui dit « Ouais, est-ce qu'on se voit? Est-ce qu'on se voit demain? Ouais, tu sais, bah je t'aime. » Désolé, je spoil. Et elle l'appelle un petit peu tous les jours. Mais Clément, il répond pas. Il répond pas à ses appels. Il lui dit « Ouais, rendez-vous à 5h au cinéma, puis il vient pas. » Oh, le lapin. Puis quand elle cherche des explications, il répond toujours pas. Puis quand il la voit en face, « Ouais, je t'aime hein. !» Elle va se dire « Est-ce que tu m'aimes vraiment? Est-ce qu'il y a vraiment une attitude d'amour envers nous ?» Ben, c'est exactement ça, avec Dieu. On a beau dire qu'on est chrétien, est-ce qu'on le manifeste? Est-ce qu'il y a des fruits visibles? Est-ce qu'on le cherche? Est-ce qu'on parle avec lui? Est-ce que on prouve notre amour par des bonnes œuvres? Les fruits de l'esprit qui nous animent, que le Saint-Esprit a mis en nous, et que nous mettons au service de Dieu, pour sa gloire, de l'Église, du corps, pour l'édification commune, et sa justice qui habite en nous et qui prend part à notre être, car le péché qui avant nous habitait, maintenant on le hait, tout comme Dieu hait le péché. La parabole du semeur, rappelez-vous cette parabole. Moi, il y a une chose que j'aime beaucoup penser, c'est que chaque chrétien, avant d'avoir été une bonne terre, il a été toutes les autres terres d'avant. Chaque personne qui a été labourée par Dieu, avant d'avoir été la bonne terre, où la graine a enfin germé, s'est épanouie et devenue un grand chêne, solide et robuste, a d'abord été une terre rocailleuse, douteuse, incrédule, sèche. Mais rappelez-vous aussi, dans Marc 4:13, vous ne comprenez pas cette parabole? La parabole du semeur. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Comprenez bien les choses, la vraie ou la fausse conversion, une bonne terre et une mauvaise terre. Est-ce qu'une personne qui accepte Christ, après avoir levé la main quand on a fait un appel, après avoir répété une prière parce qu'on lui a dit de répéter une prière, parce qu'elle a été émotionnellement touchée, parce qu'il y a eu un truc, ouais, j'ai senti mes poils du bras, ils se sont levés, puis ouf, le frisson dans le dos. Je vais dehors quand il fait froid, j'ai des frissons dans le dos, pourtant j'accepte pas Christ à chaque frisson, quoi. Le blé livré, le bon poisson et le mauvais poisson, les vierges sages et les vierges folles, la maison bâtie sur le roc et la maison bâtie sur le sable. Toutes ces paraboles, Jésus vous dit, vous ne comprenez pas cette parabole, comment comprendrez-vous les autres? Comment comprendrez-vous que il y a des vraies et des fausses conversions? Et que les fausses, elles se reconnaissent lorsqu'il n'y a pas de fruits durables, j'aimerais dire. Durables. Parce que bien souvent, on voit des gens qui servent pour un temps, qui sont énergiques, qui sont chauds pour un temps, puis boum! C'est la froideur, c'est l'air glaciaire. Et on n'entend plus jamais parler d'eux. Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont partis dans le monde, et jusqu'à leur mort, ils ne reviennent jamais. Est-ce que cette personne s'est sauvée? Est-ce que la question c'est vraiment, est-ce qu'elle a perdu ou pas son salut? Ou la question c'est, est-ce qu'elle s'est vraiment un jour convertie? George Whittlefield a dit, c'est la raison pour laquelle nous avons tant de conversions champignons, parce que leur sol pierreux n'a pas été labouré par la loi. Les conversions champignons. Moi je fais de l'évangélisation et je parle pas de la loi, je parle pas de Christ crucifié ni ressuscité, je parle juste que Dieu il vous aime et qu'en fait vous allez avoir une vie paisible avec lui. Et en fait mon but c'est de remplir mon église, parce que les big églises, les big church là, c'est de la balle, il y a de l'ambiance. Mais en fait il y a plein de membres qui viennent, l'église est bombée, l'église est pleine, le groupe de jeunes est rempli. Mais la foi, la croyance n'est pas présente. Et on a des conversions champignons. Parce qu'on a mal... La source, c'est pas l'église qui a un problème. La source, c'est la parole qui a été donnée à la personne lorsqu'on lui a annoncé l'évangile. Ok, il manquait le titre. Je me disais, tiens, c'est bizarre. Deux plantes. Une grande et une petite. Ok ? La lumière du soleil qui nous nourrit, qui nous renforce, qui nous fait grandir. Mais à côté de ça, il y a toutes les tribulations, le vent, la pluie, les asticots, tout ce que vous voulez, les pesticides, les tribulations, les tentations, les persécutions qu'on peut avoir, nous, en tant que personne, dans notre vie. Quelles sont vos persécutions? Quel est votre pesticide? Quels sont les insectes qui vous rongent? Quel est le vent qui vous tourmente et qui vous fait tomber dans vos vies? Et finalement, si la plante qui est grande et la plante qui est petite tombent ou ne tombent pas, la conséquence révèle la condition du sol. Sur quoi est-ce qu'on a bâti notre plante? Sur quoi est-ce qu'on a bâti notre vie? Sur quoi est-ce qu'on a bâti les convictions qui nous font respirer, qui nous animent chaque jour qui passe? Le sauver, la plante qui tient bon, tient ferme, qui a un enracinement profond en Jésus-Christ, il s'épanouira, il sera sauvé. Pourtant l'autre, il fanera et il mourra. Prenez... Ah oui, d'accord. Il est là le titre. Ok, provoquer une fausse conversion, c'est mener quelqu'un à une décision. Sauf que cette décision, un jour, on se sentira responsable devant eux. Quand vous rentrerez chez vous, non. Quand vous mangerez, non. Quand vous aurez une discussion, non plus. Lors du jugement dernier, oui. Pourquoi ? Parce que Dieu viendra vous voir et vous dira « Pourquoi vous avez dit ça à cette personne ? Pourquoi est-ce que tu as menti ? Pourquoi est-ce que tu as caché quelque chose ? Pourquoi est-ce que tu n'as pas dit l'entièreté de mon salut ?» Le cœur est ouvert à tous. Et, pardon, la conséquence sera terrible. Comprenez bien que les faux convertis manquent de racines. C'est-à-dire que ce qu'on leur a promis, au premier coup de vent, ça va tomber. Ce qu'on leur a dit, si on leur a pas clairement dit les choses, déjà ça passe par nous, hein. Il faut clairement qu'on annonce. Parce que si on annonce mal, les fruits seront mauvais. Si on plante mal, ce sera pas bon. Et quand bien même on reçoit des personnes dans nos églises, ça veut pas dire que c'est tous des convertis. Après, c'est à l'église d'avoir un œil dessus. D'avoir un suivi. Et ça, c'est souvent ce qui manque dans nos assemblées. On manque de suivi. On manque d'encadrement. On manque de structure pour entourer les nouveaux convertis, les nouveaux venus, les nouveaux convertis. Pour voir finalement comment ça se passe. Quelles sont ses racines. Dans quoi est-ce qu'il s'est planté. Beaucoup de branches sont sans fruits. Et les branches sans fruits sont coupées. Car un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Et inversement, un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits.
Pardon.
Le vrai converti, lui, il a des fruits en abondance qui sont durables. J'insiste sur cette notion de durabilité. J'insiste lourdement dessus. Il endure quelle que soit l'épreuve. Plus fort est la lumière du soleil, plus profondes seront ses racines. Il s'enracine en Christ, s'enraciner en Christ. Je me souviens plus du passage, mais c'est que c'est dans Colossiens. On voit cette notion d'être enraciné dans la personne de Christ, avoir un fondement solide, d'être bâti sur Jésus-Christ. Et on est donc content d'être plus près de Dieu. Il y a cette réjouissance, il y a cette aspiration. Et les épreuves deviennent bonnes. Parce que le faux converti, l'épreuve, ça le fait partir de l'église. Dès qu'il va rencontrer une difficulté dans sa vie, il va dire « Je suis dégoûté, Dieu m'a abandonné, Dieu n'écoute pas mes prières. J'ai prié, ça marche pas. J'ai demandé un truc, je l'ai pas. Et maintenant, je suis dans la galère, j'ai pas de travail depuis 2 ans et demi. Il y a un gars, je citerai pas c'est qui, mais pour moi, c'est un modèle de persévérance. Ça fait 2 ans et demi qu'il me dit « Je cherche un taf. C'est la galère financière. Je galère un truc de dingue. » Et des fois, on prenait un temps pour prier. Et moi, ce qui est le plus surprenant, c'est que il me dit « Ouais, bah tu sais, moi, je fais confiance à Dieu, mais ouais, je prie vraiment pour que le Seigneur il soit participant dans ma vie, qu'il agisse, quoi, qu'il m'aide, parce que c'est chaud. » Et ce gars-là, on priait, on s'est vu un nombre incalculable de fois. Hein. Des fois, je me disais « Mais il va jamais... Seigneur, fais-tu trouver un taf, quoi, parce que c'est chaud. » Parce que je voyais la galère dans laquelle il était, je voyais sa vie qui était difficile, et je me disais « Mais mince !» Et un jour, il y a vraiment pas longtemps, je reçois un... Et en plus, il était parti faire des entretiens à Londres, il était parti faire des trucs, il se déplaçait. Je me disais « Mais mince !» Et il me disait « Ouais, bah, ça a pas donné de résultats, et ils m'ont pas pris. » J'étais trop triste dans mon cœur. Je me disais « Mince, ça fait 2 ans et demi qu'il galère pour faire un taf, mais mince quoi !» Et il y a pas longtemps, il m'appelle, il m'envoie un bon gros SMS qui me dit « Je suis pris. J'ai trouvé un travail. » Amen. Mais franchement, sérieux, quoi. Et lui, à chaque fois que je le voyais, il avait une persévérance de malade mental. C'est-à-dire qu'il lâchait pas le steak. Il était accroché à la personne de Christ et il disait « Je sais que Christ est mon soutien et qui sera là dans ma vie et que même si là dans ma vie j'ai une épreuve terrible où je ne peux pas, là, ça me fait mal, je souffre dans ma chair, c'est difficile, j'ai pas d'argent, je peux pas sortir, je suis coincé chez moi. Quand on m'a dit non, je voyais le côté difficile et il était confiant, il disait « Le Seigneur pourvoira, le Seigneur va me donner un travail, j'en suis certain. » Et un jour, il m'a dit un truc, j'étais mort de rire. Il me fait Aussi certain que le soleil se lève chaque matin, j'aurai un travail. Je vis, c'est un ouf. Il est trop fort. Pareil, j'ai une sœur qui a perdu son taf il y a pas longtemps. Et elle m'envoie un mail ou un SMS, je sais plus, elle me dit « Amen, alléluia, gloire à Dieu, j'ai perdu mon taf, je vais avoir plus de temps et je vais pouvoir faire plein de trucs pour Dieu et des semaines d'évangélisation et tout ce qu'on veut. » Et là, je fais « Waouh !» L'épreuve devient quelque chose de bon. Si je prends une feuille blanche, je mets un point au milieu, vous verrez quoi ? Le point. Et tout le blanc qui est à côté, vous le voyez ? Non, on l'oublie. L'épreuve du chrétien devient quelque chose de bon. La petite plante, en fait, elle a des grandes racines qui s'étendent partout, qui sont ancrées en Christ, qui le nourrissent tout le temps. Ok. Si vous ne faites pas l'usage de la loi dans les proclamations de l'évangile, vous remplirez l'église de faux convertis. Parce que la loi laboure nos cœurs. Christ l'utilisait. Je me suis vraiment, quand j'ai vraiment essayé de comprendre l'usage de la loi, je me suis dit, ça se trouve Christ l'utilisait parce qu'en fait, il avait que ça à utiliser. Parce qu'en fait, eux, ils étaient soumis à la loi. Mais c'est plus profond que ça. Parce que la loi révèle en nous ce qui est mauvais. Et le « êtes-vous une bonne personne ?» c'est un moyen, c'est un process. Un process, c'est quelque chose que vous pouvez adapter, que vous pouvez reformuler, que vous... ne perdez pas le sens central. Mais que vous pouvez adapter, c'est-à-dire que vous allez parler à une personne, ça se trouve vous allez commencer par « Bonjour, est-ce que vous avez une Bible chez vous, madame ?» Non ? Très bien, est-ce que vous croyez en Jésus-Christ ? Non ? Ok. Pourquoi ? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose après la mort ? Oui ? Tiens, pour vous. Alors comment est-ce qu'on fait pour avoir accès à ce paradis ? Ben, en faisant des bonnes choses. Tiens, est-ce que vous êtes une bonne personne ? Oui, etc., etc. C'est pas quelque chose de fixe, ni quelque chose de bloqué. J'aimerais juste conclure sur cela et vous rappeler qu'il est important, qu'il est essentiel de parler aux gens dans toute l'intégralité, en donnant l'intégralité du message, en n'enlevant pas des bouts. Faites-le sans crainte, sans peur, car vous n'êtes pas seul. Et Christ vous accompagne. L'Esprit est avec vous. Il vous conduit, il vous donne les mots, l'illumination. Ok. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, même sur l'intervention de Guillaume. Je pense que c'est le temps de questions, non ? Ok.
Bah vas-y, hein.